Chapitre 15.
Les derniers points de désaccord étaient levés. Les avocats s'étaient entendus sur la rédaction finale des clauses litigieuses et la licence d'exploitation relative au brevet attendait la signature en 4 exemplaires étalés sur le bureau Empire. Philip Sandersen regarda l'hélicoptère se poser sur la pelouse derrière les hibiscus. Le juge Claiborne en sortit, la main à plat sur son brushing, suivi d'Irwin Glasner qui protégeait ses yeux du soleil. Sandersen soupira, décroisa les bras, porta l'inhalateur à son nez, le glissa dans un tiroir. Puis il se tourna vers la chaise en cuir à côté de lui, dont l'assise creusée semblait s'être redressée depuis 6 jours. La mort du père Dunaway, tout en le délivrant d'un grand poids, lui laissait un vrai vide. La tutelle morale que le prêtre avait exercée sur lui depuis leur jeunesse au Vietnam s'était évanouie en emportant 50 ans d'amitié, d'admiration sincère, de méfiance mutuelle et d'intérêt commun.
« Vous avez une mine admirable !» s'exclama le juge en entrant à la suite de l'infirmière.
Le soleil inondait l'immense chambre en palissandre, d'où avaient disparu dialyseur, respirateur et moniteur de contrôle. Émacié mais bronzé, l'air à la fois tendu et relaxé de l'homme qui vient de souffrir 1 heure en salle de fitness, le docteur Sandersen se leva pour accueillir les représentants de la Maison Blanche. « Toutes nos condoléances », prononça gravement Irwin Glasner, soucieux de tempérer l'entrain gaillard du conseiller juridique pour qui la négociation était close. Sandersen leur indiqua les fauteuils en cuir de cordoue qui faisaient face à son bureau et se rassit en murmurant « L'après-midi de sa mort, j'ai eu le père Dunaway au téléphone. Il m'a dit que Jimmy, après l'avoir longuement interrogé à mon sujet, priait pour moi. Alors, ne croyez surtout pas que je vous dise cela comme un argument dans nos transactions. » D'une moue bienveillante, le juge s'affranchit de cette arrière-pensée. Alors j'ai senti comme un courant électrique parcourant tout mon corps. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai pu respirer sans assistance, et le soir même, les marqueurs témoignaient d'une rémission fulgurante de mon cancer. Irwin laissa son cœur s'emballer, mais ne montra rien. Un élan douloureux dans son crâne fit revenir devant ses yeux l'érable de Central Park. « Et vous, de votre côté, reprit Sandersen avec un frémissement contenu, y a-t-il eu d'autres manifestations ?»
« En ce qui me concerne, le président est prêt à lever l'option », éluda Wallace Claiborne.
Il désigna la mallette en veau bordeaux posée contre son mollet gauche, contenant le $1 million versé à titre d'avaloir sur les droits d'exploitation du clone.
« Il n'est plus question de ça », répondit Sandersen.
Claiborne crispa les fesses en gardant le visage avenant.
« Que dois-je entendre par là, docteur ?»«
Je ne vous le vends plus. »
Les neurones du conseiller juridique se connectèrent aussitôt sur les clauses du préaccord interdisant aux cédants de se rétracter, mais Sandersen devança la riposte.
« Je vous le donne. Je ne veux rien toucher sur les miracles opérés par Jimmy maintenant que j'éprouve leur réalité dans ma chair. Nous ne sommes plus dans le virtuel, messieurs. La protection de mon droit moral devient soudain dérisoire, pour ne pas dire indigne. La propriété intellectuelle s'exerce-t-elle sur la grâce ? »
Le juge dodelina gravement de la tête en ravalant son incrédulité.
« Je ne reviens pas sur nos accords, simplement, les sommes qui devaient m'être versées le seront à des œuvres caritatives dont je vous laisse le choix. De toute manière, sans le père Dunaway, je ne sais ce qu'il adviendra de ma fondation. »
« N'ayez crainte, » assura Claiborne, « un simple avenant suffira. Je vous le transmets demain matin avec la liste des œuvres susceptibles de mériter. »
« Je vous fais confiance, »
coupa Sandersen en dévissant son stylo. Tandis que les deux parties signaient la convention de licence, Irwin observait les traits de son confrère. Il avait du mal à admettre ce revirement brutal, mais s'imaginait à la place de Sandersen si, d'aventure, sa propre tumeur au cerveau disparaissait du jour au lendemain. Depuis l'installation dans les Rocheuses, il était hanté par cet éclat d'obus que Jimmy, à l'âge de 4 ans et demi, avait dissous mentalement dans le genou du prêtre, et il repoussait sans cesse la tentation de rééditer l'expérience. Quelque chose en lui s'insurgeait contre un usage privé des facultés du clone. Ce n'était pas seulement l'éthique du serviteur de l'État, mais un vieux fond de doute, ou alors l'indice d'une vraie foi. On ne met pas Dieu à l'épreuve.
« Pardon de ne pas vous retenir à déjeuner, » conclut Sandersen en se levant. « J'ai un autre rendez-vous. Je vous laisse au bon soin de mes hommes de loi qui connaissent les meilleures tables de l'île. Veuillez transmettre à Jimmy toute ma... »
Il chercha le mot dont son visage exprimait l'ampleur, la force, les nuances.
« Ce sera fait !» promit d'une voix tonique le juge Claiborne que le voyage avait creusé.
Sa poignée de main fit craquer les doigts décharnés du généticien. Il reprit sa mallette et, d'un pas vif, se dirigea vers l'infirmière qui lui tenait la porte.
« Sans rancune, Irwin, »
susurra Sandersen en sondant le regard de son confrère. « Faites attention à vous, » répondit Glasner, pour qui l'exécution du père Donoway par la CIA semblait, sinon probable, du moins logique.
« Qu'ai-je à perdre ?» sourit le vieil homme. « Je ne suis plus utile. J'ai été la cheville ouvrière. Maintenant, c'est à vous d'accomplir les desseins du Seigneur. Veillez sur Jimmy. »
Irwin reconnut les mots du prêtre, hocha la tête et rejoignit Claiborne qui piaffait sur le seuil. À peine les émissaires de Washington n'avaient-ils quitté la maison que le personnel soignant reprenait possession de la chambre, ouvrant les placards pour ressortir le matériel d'hospitalisation à domicile. Une infirmière défit le lit, une autre prépara le dialyseur, une troisième déshabilla Sandersen, le recoucha, lui ôta son fond de teint. Il souriait, tandis que se dissipait l'effet des produits dopants qu'on lui avait injectés pour qu'il fasse illusion. La vérité sur les origines de Jimmy éclaterait en temps voulu, juste avant l'élection présidentielle, ainsi que le souhaitait l'état-major démocrate. D'ici là, Glasner et ses équipes de chercheurs pourraient refaire indéfiniment les analyses du présumé clone, elles confirmeraient toujours l'identité génétique de Jésus. Ensuite, il y aurait la reconnaissance officielle du Saint-Siège, trop heureux de redorer sa bannière dans une croisade orchestrée par l'Amérique, puis la médiatisation planétaire de Jimmy Christ sur fond de campagne électorale. Dans un élan d'euphorie, Sandersen se dit que le rêve de sa vie prendrait de vitesse ses métastases. En inventant sa guérison à distance par les prières de sa créature, il s'était senti si crédible qu'il était presque au bord d'y croire. Donoway aurait souri, ou pas. De tous ses collaborateurs, le prêtre était le seul à savoir que Jimmy n'était pas né de l'ADN du Christ. Il n'aurait jamais avoué délibérément la mystification. Mais son inaptitude au mensonge, aggravée par sa mauvaise conscience de chrétien, aurait rendu de plus en plus visible une culpabilité que tous les intéressements financiers n'avaient jamais réussi à adoucir. Le vieux dominicain n'aurait pas tenu longtemps face au psychologue des services secrets. Le fait que la CIA soit soupçonnée de son élimination résolvait le problème de la manière la plus harmonieuse qui soit pour Sandersen. Mais cela n'empêchait pas les regrets. On se sent seul quand on a perdu l'unique personne sur Terre pour qui l'on était quelqu'un de bien.
« Vous n'auriez jamais dû vous lever, docteur, » soupira l'infirmière qui avait pris sa température. « J'espère que vous n'aurez pas à en payer les conséquences. »
Il sourit sans répondre. En se laissant rebrancher sondes et électrodes, il remâchait avec une jubilation amère l'injustice et l'humiliation que lui avait infligé son pays, le contraignant à l'exil pendant que les médiocres inoffensifs comme Glasner, couverts d'honneur en échange de leur docilité, occupaient pour rien le devant de la scène. Sa vengeance allait être grandiose. Il n'avait aucun doute sur la suite des événements. D'avance, il savait que les maîtres de la Maison Blanche se ridiculiseraient aux yeux du monde, désormais, avec d'autant plus de conviction que ça ne leur coûterait rien.